Choose France, choisissez la France. À Versailles, Emmanuel Macron s'efforce de rassurer les groupes internationaux pour qu'ils investissent dans l'Hexagone malgré la crise des gilets jaunes. Je n'ai pas menti, assure Alexandre Benalla devant la commission d'enquête sénatoriale au sujet de ses passeports diplomatiques, mais l'ancien chargé de mission de l'Élysée refuse de répondre à la plupart des questions, compte rendu d'Antoine Marette. L'OMS appelle les pays européens à garantir aux migrants un meilleur accès aux soins. Elle met en évidence une dégradation de leur santé après leur arrivée en Europe. Enfin, dossier sur les coraux de la mer Rouge. Les coraux d'Eilat intéressent les chercheurs car contrairement à la barrière de corail australienne, ils résistent au réchauffement climatique. Explication de notre correspondant Étienne Mounin. Ils ont déjeuné avec Édouard Philippe et vont dîner avec Emmanuel Macron. Quelques 120 patrons de multinationales et une trentaine de chefs d'entreprise françaises participent à la deuxième édition du sommet Choose France à Versailles. Un sommet destiné à promouvoir les investissements en France au moment où l'exécutif craint que la crise des gilets jaunes ne détourne les milieux d'affaires de l'Hexagone. Micropore, Mars, Procter & Gamble ou Cisco ont déjà pris des engagements. L'Élysée annonce ainsi plus de 600 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans l'industrie et les services. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Le chef de l'État va s'adresser ce soir à ses dirigeants d'entreprise. Quel est le message qu'il veut leur faire passer?
En résumé, venez, vous serez bien accueillis. D'une façon générale, l'opération séduction est d'abord destinée à démontrer que la France reste très attractive pour les investisseurs, tout en communiquant autour de l'effet positif pour les territoires et la création d'emplois, une manière de tenter de couper court en pleine crise des gilets jaunes aux critiques sur le président des riches. Reste que ces rencontres sont avant tout un message politique à l'adresse des milieux d'affaires. Pour le président comme pour les 25 ministres présents aujourd'hui, c'est une occasion de rassurer, si besoin était, les chefs d'entreprise réunis et de leur exposer leur diagnostic sur la crise sociale que traverse le pays et des mobilisations des gilets jaunes scrutées depuis l'étranger. Le message d'Emmanuel Macron, c'est en résumé, si cette crise arrive sous mon mandat, elle s'explique par des dizaines d'années précédentes et l'exécutif continuera la politique économique menée depuis 18 mois, en particulier les réformes en faveur de l'entreprise. Voilà qui devrait sonner doux aux oreilles des dirigeants faisant étape sur la route de Davos. Cette année, Emmanuel Macron, lui, ne sera pas au Forum économique mondial qui débute demain. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'y rendra de mercredi à vendredi pour défendre ses réformes, mais aussi ce qu'il appelle une vision française du capitalisme. Plus de richesses, moins d'inégalités. Ce discours programmatique trace aussi une feuille de route politique alors que la France prend la présidence du G7 cette année avec pour thème précisément la lutte contre les inégalités. La crise doit être l'occasion de redéfinir le capitalisme au XXIe siècle, expliquait ce matin Bruno Le Maire. Les gilets jaunes et plus globalement les participants au grand débat national pourraient vouloir le prendre au mot.
Catherine Pétillon, au sommet Choose France 2018, Google avait annoncé la création d'un centre de recherche en intelligence artificielle qui a bien ouvert en septembre dernier. Les premiers recrutements ont eu lieu et il a également ouvert un atelier du numérique à Rennes. Le géant américain des technologies qui est par ailleurs sévèrement sanctionné par la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés reproche à Google de ne pas informer suffisamment clairement ses utilisateurs sur l'exploitation de leurs données personnelles et elle lui inflige une amende record de 50 millions d'euros, Éric Chavroux.
Une sanction financière record quand on se souvient que la CNIL n'avait jusqu'ici condamné Google qu'à 150 000 euros d'amende. Mais cette fois, le gendarme français des données personnelles utilise le nouveau cadre européen du RGPD, le règlement général sur la protection des données. La CNIL reproche à Google un manque de transparence, d'information et de consentement pour les utilisateurs. Ainsi, écrit la commission, des informations essentielles comme les finalités de traitement de nos données, la durée de leur conservation ou les catégories de données utilisées pour la personnalisation de la publicité sont excessivement disséminées dans plusieurs documents avec jusqu'à 5 ou 6 clics pour accéder à l'information pertinente et certaines options précochées. La Quadrature du Net se réjouit de cette sanction et de sa publicité, d'autant que l'association de défense des internautes avait mobilisé 10 000 personnes pour une des deux plaintes inédites qui vient ainsi d'aboutir, mais elle regrette que cette décision ne s'applique qu'à Android, le système d'exploitation de smartphones de Google, et que l'amende n'atteigne pas le maximum permis par les textes, 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. La Quadrature du Net attend surtout à l'avenir d'autres décisions aussi symboliques concernant par exemple le moteur de recherche de Google, ainsi que des prises de position très claires des politiques français à l'encontre des maîtres de nos données. Quant à Google, il peut maintenant faire appel devant le Conseil d'État.
Éric Chavroux, contribuer en ligne au grand débat national devrait être possible à partir de ce soir. La consultation se met en place progressivement. Ses animateurs, Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu, ont rencontré ce matin les 5 garants désignés pour garantir l'indépendance du débat. Alexandre Benalla reconnaît des erreurs, mais pas de mensonges. Auditionné pour la deuxième fois par la commission d'enquête du Sénat, l'ancien collaborateur de l'Élysée, licencié l'été dernier, devait s'expliquer sur les passeports diplomatiques qu'il a utilisés depuis. Antoine Marette, vous êtes pour nous en direct du Sénat. Alexandre Benalla reconnaît avoir peut-être manqué de discernement, mais il s'abrite derrière les différentes procédures judiciaires qui lui valent 3 mises en examen pour esquiver certaines questions des sénateurs.
Effectivement, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a été mis en examen vendredi pour utilisation abusive de passeports diplomatiques après son licenciement et il se cache derrière l'instruction judiciaire en cours pour esquiver la plupart des questions des sénateurs.
Les conditions d'attribution, de détention et d'obtention ainsi que de restitution de ces passeports concernent l'information judiciaire en cours. Et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis là-dessus. Donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission. J'en suis désolé.
Alexandre Benalla reconnaît avoir commis des erreurs, mais il n'a pas menti à la commission en septembre dernier. Ses passeports étaient à l'Élysée. On les lui a rendus en octobre. Qui ? À nouveau, il se retranche derrière la même rengaine. Information judiciaire en cours, droit à la non-auto-incrimination. Une attitude qui finit par agacer le président de la commission, Philippe Bas, qui, au bout de plusieurs relances, dégaine la menace.
La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc très nous bien. Aurons à délibérer bien sûr. De la manière dont vous nous avez répondu, ou plutôt de la manière dont vous ne nous avez pas répondu.
Même le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur, habituellement plutôt affable, finit par perdre son calme quand Alexandre Benalla refuse de lui donner des précisions sur ses activités depuis qu'il a quitté l'Élysée.
À partir du moment où l'on est dans les 6 mois oui. qui suivent l'exercice d'une fonction importante, la loi prévoit une obligation de saisir la commission de déontologie pour parler des activités et que la commission statue sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre les activités que vous exercez présentement et les missions qui étaient les vôtres il y a quelques mois au sein de la plus haute institution de l'État.
Mais les sénateurs n'obtiennent pas plus de réponses, ni sur les passeports, ni sur la raison exacte de ces déplacements en Afrique. Alexandre Benalla conclut au bout de 2 heures d'audition « Je ne détiens aucun secret sur qui que ce soit, je ne fais aucun chantage ».
Antoine Marette en direct du Sénat avec Marcos Darras à la technique. Les lycéens qui veulent poursuivre leurs études pourront s'inscrire et formuler leurs vœux sur Parcoursup à partir de demain. Lors de sa mise en place, on s'en souvient, l'outil d'admission post-bac a été vivement critiqué. Le défenseur des droits s'est fait aujourd'hui l'écho des difficultés des lycéens. Il recommande une plus grande transparence et la garantie d'une mixité sociale dans l'enseignement supérieur, Victoria Coussa.
Oui, parce qu'avant la rentrée dernière, des lycéens se sont sentis lésés, triés, même en fonction de leur lycée d'origine, selon l'adresse ou le niveau d'excellence. D'où la volonté du défenseur des droits, Jacques Toubon, d'avoir un outil d'admission plus transparent. L'objectif, c'est qu'au moment de la formulation des vœux, les jeunes connaissent tous les critères d'évaluation de leur candidature, que tous les algorithmes locaux soient rendus publics, car ces derniers sont accusés de prendre en compte le lycée d'origine. D'ailleurs, c'est ce que démontre un maître de conférence à l'université de Strasbourg. Il prend l'exemple de 2 lycées du Bas-Rhin. Dans le moins bien classé, c'est-à-dire où il y a le plus bas taux de mention au bac, un candidat devra avoir la note de 15 en contrôle continu pour être classé ex aequo avec un candidat qui n'aurait que 11 mais qui viendrait du lycée le mieux coté. Autre recommandation du défenseur des droits, rendre possible la mobilité géographique, notamment en Ile-de-France, pour qu'un jeune, par exemple, de l'Académie de Créteil ait la même chance d'étudier l'histoire géo dans une université de Versailles qu'un jeune de l'Académie en question, jusqu'ici prioritaire. Mais ça vient d'être réglé. Désormais, les franciliens font partie d'un seul et même secteur. Jacques Toubon nous n'oublie pas le handicap. Il aimerait que les étudiants handicapés soient prioritaires dans chaque académie.
Victoria Coussa. Il prétendait au trône de France. Le comte de Paris, Henri d'Orléans, est mort à 85 ans. Descendant du frère de Louis XIV, il était parfois appelé Henri VII par ses partisans. Comment débloquer la situation après le rejet de l'accord de Brexit par les parlementaires britanniques, contrainte à présenter un plan B? Theresa May est revenue devant les députés cet après-midi. Elle leur promet d'être plus à leur écoute lorsqu'il s'agira de négocier les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et elle prend plusieurs engagements, Antoine Gignot.
Oui, absolument. Elle promet d'être plus souple, plus à l'écoute des parlementaires, Theresa May, et elle donne des assurances à la gauche. Le statut des travailleurs, dit-elle, ne changera pas après le Brexit. Elle annule enfin les frais de dossier nécessaires aux expatriés pour demander l'autorisation de rester sur le sol britannique. Mais pour le reste, pas de grandes modifications. La première ministre continue de s'appuyer sur l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Elle propose aux députés de déposer des amendements pour le modifier. Les solutions radicales, une sortie sans accord de l'Union européenne ou un deuxième référendum, Theresa May n'y croit pas. Il n'y a pas la majorité au Parlement pour un tel scénario, dit-elle. Pas question non plus d'annuler l'article 50. Ce serait une trahison pour les électeurs. Il n'y a donc pas énormément d'options pour trouver une issue à la crise. Le gouvernement pourrait relancer les discussions sur la frontière irlandaise avec l'Union européenne sans toucher aux accords de paix, précise Theresa May. Il faut donc redéfinir les contours du backstop, le filet de sécurité censé permettre d'éviter le retour d'un mur entre le nord et le sud de l'île. Mais Bruxelles a déjà prévenu, il n'y aura pas de nouvelles négociations sur le sujet. Pendant ce temps, la tension monte après l'explosion samedi soir d'une voiture piégée à Londonderry. 3 hommes masqués ont volé cet après-midi une camionnette avant de l'abandonner avec un colis suspect à l'intérieur.
Antoine Gignot en direct de Londres. Pour le FMI, il est impératif de mettre fin aux incertitudes entourant le Brexit. Le Fonds monétaire international souligne que la situation a déjà pesé sur les investissements au Royaume-Uni. Plus généralement, le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale, estimées à 3,5% cette année et 3,6% en 2020. À noter la décélération de la croissance chinoise. Selon Pékin, la croissance s'élève à 6,6% en 2018. C'est son niveau le plus bas depuis près de 30 ans. Un taux qui pourrait être encore plus bas selon des experts qui estiment que ces statistiques officielles ne sont pas fiables. La correspondance de Dominique André à Pékin.
La croissance économique chinoise est-elle de 6,6% ou plutôt de 4,1% comme l'estime le groupe de recherche économique Conference Board? Il y a quelques jours, cet organisme mondial prévenait que les statistiques officielles du taux de croissance annuel publiées ce matin ne seraient pas fiables. Le Conference Board calcule depuis 2014 son PIB pour la Chine à partir de sa propre méthode, aussi bien pour le secteur des services et de la production industrielle. Ce n'est pas la première fois que les chiffres officiels sont sujets à discussion dans les milieux économiques. Un expert chinois de l'Université du Peuple estimait le mois dernier que l'augmentation du PIB en 2018 pourrait s'élever à 1,67% et même avoir été négative, des propos qui ont été censurés sur Internet. Ce problème de données falsifiées n'est pas nié par le Bureau des statistiques à Pékin, qui a annoncé pour la première fois la mise en place d'un système unifié de calcul de la croissance au niveau national. Pour les économistes du Conference Board, la croissance chinoise n'augmenterait que de 3,8% en 2019, bien loin des objectifs du gouvernement chinois pour qui la croissance économique et la stabilité du pays sont liées.
Qui sera de taille à affronter Donald Trump? Qui saura l'empêcher d'accéder à un second mandat? À 22 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, de plus en plus de candidats démocrates sortent du bois. Et parmi eux, la sénatrice Kamala Harris, 54 ans. Grégory Phillips brosse son portrait depuis Sacramento, en Californie.
Kamala Harris a choisi le jour où l'Amérique commémore Martin Luther King pour annoncer officiellement sa candidature. Ce n'est évidemment pas un hasard. Cette ancienne procureure générale est née à Oakland, en Californie, il y a 54 ans, d'une mère immigrée du sud de l'Inde et d'un père jamaïcain. Les origines et le parcours sans faute de Kamala Harris font que ses supporters la présentent souvent comme une Obama au féminin. Kamala Harris est sénatrice de l'État de Californie depuis 2016, l'une des rares démocrates à avoir gagné un siège cette année-là. Au Congrès, elle est connue pour sa pugnacité, notamment en tant que membre du comité judiciaire du Sénat. Ces questions précises et incisives ont été très remarquées, par exemple, lors de l'audition du juge conservateur Kavanaugh pendant le processus de sa nomination à la Cour suprême. Dans cette course à l'investiture démocrate, ils sont déjà 8 candidats déclarés et d'autres vont suivre. La Californienne a peut-être un défaut pour l'instant, elle est relativement méconnue au niveau national. En septembre, un sondage CNN disait qu'un électeur sur deux n'avait jamais entendu parler d'elle. Mais Harris vient de sortir un livre programme. Elle entame un marathon médiatique qui a débuté ce matin sur la chaîne ABC et elle est l'une des candidates très sérieuse à l'investiture.
Au Venezuela, des militaires ont voulu se soulever contre Nicolas Maduro. Dans des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ces militaires de la garde nationale bolivarienne ont déclaré désavouer le chef de l'État et appelé au soutien de la population. Mais ils ont été rapidement arrêtés. L'opposition appelle à manifester ce mercredi pour réclamer un gouvernement de transition et la convocation d'élections libres. Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé s'est penchée de près sur la santé des migrants en Europe. Sans surprise, les réfugiés et migrants sont plus vulnérables à certaines maladies que les populations nées en Europe. Mais le rapport tord également le cou à certaines idées reçues. On fait le point avec Jérémy Lanche à Genève.
Mythe numéro 1, les migrants qui gagnent l'Europe sont souvent malades. En réalité, ils arrivent en relative bonne santé. Ils sont en général moins exposés aux maladies non transmissibles. Sauf qu'avec le temps et la précarité, les risques de développer des cancers, des AVC, des maladies cardiovasculaires augmentent. Le problème numéro 1 reste les maladies infectieuses comme la tuberculose. Mais autre idée reçue, les migrants sont porteurs du VIH. C'est plutôt faux. S'ils ont des risques de le contracter, c'est surtout pendant leur séjour en Europe où le virus est toujours très présent. Le rapport démonte par ailleurs, une idée assez répandue, la transmission de maladies par les nouveaux arrivants aux populations des pays hôtes. Le risque est en fait très faible, dit l'OMS. Alors bien sûr, des disparités existent selon les pays d'origine, le statut et l'accès au système de soins du pays. L'agence de santé de l'ONU rappelle que les mineurs non accompagnés sont particulièrement exposés à l'exploitation sexuelle, la dépression et les syndromes post-traumatiques. Mais dernière idée fausse battue en brèche par l'OMS, le nombre de migrants en Europe, il représente 10% de la population totale, dont une part infime de réfugiés. Dans certains pays européens, l'opinion publique estime qu'ils sont 3 ou 4 fois plus nombreux.
Pour stimuler le tourisme à destination de la mer Rouge, un nouvel aéroport international vient d'être inauguré dans le sud désertique d'Israël. L'aéroport Ramon, du nom du premier astronaute israélien, pourra à terme accueillir des gros porteurs du monde entier. Les touristes pourront donc facilement accéder à la station balnéaire d'Elat, située à quelques kilomètres de là. Elat, dont les coraux hors du commun attirent aussi les chercheurs, car ces coraux résistent pour l'instant au réchauffement climatique. Le reportage d'Étienne Monin.
Ah, c'est le simulateur de mer Rouge. Donc, c'est un endroit dans lequel on va recréer des conditions expérimentales qui correspondent à des conditions de température et d'acidification de l'océan, donc de pH, qu'on aura dans les 10 prochaines années ou plus en mer Rouge.
Sous une grande bâche devant une petite armée d'aquariums, Guillaume Banprandi présente l'outil qui permet de tester la résistance des coraux du golfe d'Aqaba. On est tout au sud d'Israël, dans l'Institut interuniversitaire des sciences marines, face à un phénomène, un corail qui ne plie pas pour l'instant devant les effets du réchauffement climatique. Mausfin dirige le laboratoire qui étudie ces coraux.
C'est une situation très particulière et ça permet à ce corail d'être à l'aise les étés et même de supporter la hausse des températures. Et on pense qu'on a une centaine d'années avant que ce corail ne soit menacé par l'augmentation des températures de l'eau.
Ce corail sert donc de cobaye. Des branches sont élevées dans une pouponnière, puis testées dans le simulateur de mer Rouge présenté par Guillaume Banprandi pour mesurer la résistance aux températures élevées.
Le maximum qu'on ait réalisé, c'est 36 degrés, où on commençait à observer un signe de blanchiment, mais pas de blanchiment massif qu'on pourrait avoir dans d'autres pays comme en Australie.
Le phénomène s'explique par une sélection naturelle amorcée il y a plus de 6000 ans. D'après Mausfin, des coraux ont migré depuis les mers très chaudes du sud vers le nord plus tempéré et seuls les plus résistants ont survécu.
Ici dans le golfe d'Aqaba, on est dans une situation particulière. Peut-être la seule dans laquelle le corail a passé une sélection naturelle pour sa résistance thermale ou pour les hautes températures. Seul le corail qui pouvait résister aux fortes températures dans le sud de la mer Rouge a réellement pu émigrer vers le nord en passant cette espèce de filtre naturel. Il a pu alors s'installer dans le golfe d'Aqaba, qui est à 6 degrés de moins que l'environnement d'où il vient et auquel il a survécu.
Ce corail attire des équipes de chercheurs venues du monde entier. Céline Lousser-Fonta est microscopiste. Elle appartient à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Elle regarde ce qui se passe dans les cellules quand la température augmente. C'est un vaste chantier ouvert il y a à peine 5 ans.
On est vraiment au début de cette recherche-là. Pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a ce type de grande expérience qui est mise en place avec des stress thermiques. Donc on va augmenter la température pour voir la réaction des coraux et des petites algues. On en est vraiment au tout début.
Et l'enjeu est majeur. Les espèce est menacée à l'échelle du globe par le réchauffement des mers. Le corail du golfe d'Aqaba fait donc aujourd'hui figure de patrimoine et de richesse. Il renferme l'espoir d'un mécanisme de préservation.
Étienne Monin à Eilat pour France Culture. Demain mardi, il pleuvra sur le sud-ouest, il neigera sur une grande partie nord et est de l'Hexagone. 24 départements sont placés en vigilance orange. Soleil en revanche sur la façade est du pays, de l'Alsace au pourtour méditerranéen. De moins 6 à 6 le matin, les températures atteindront l'après-midi 0 à 4 degrés sur un bon quart nord-est, 5 à 10 dans l'ouest, 8 à 13 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.